Il y a 1 milliard de gens, presque, selon les Nations unies, qui souffrent d'insécurité alimentaire quotidiennement. La population va accroître à plus de 10 milliards, probablement dans nos vies. Donc, on parle de 2050-2070, là. La population canadienne va pas s'accroître beaucoup. T'sais, on parle de 55 millions, 60 millions, peut-être. Et on pourrait nourrir la planète. Il y a assez de pertes pour nourrir ceux qui manquent de faim. Donc, c'est une question de distribution aussi alimentaire. On produit assez de nourriture. Donc, on peut faire un meilleur effort. Ça, en plus, on sauve de l'argent. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. C'est mieux pour l'environnement et c'est mieux pour nous. Et c'est mieux pour notre portefeuille. C'est une éducation qu'on doit faire, à mon avis, à partir de l'école primaire. Plus de jardin, plus de cuisine, plus de contact avec l'alimentation. Qu'on se salisse les mains avec la terre, avec la farine.
C'était M. Jean-Charles Levallée. Il est titulaire d'un doctorat et expert dans le domaine du gaspillage et de la sécurité alimentaire. Il était également un des juges lors du premier volet du défi de réduction du gaspillage alimentaire.
Et d'une certaine manière, il vient de résumer la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a lancé ce défi et pourquoi nous devons, en tant que société, le relever.
Exactement. C'est pourquoi nous explorons aujourd'hui ce défi.
Et quel défi, Kirk? Pour commencer, il y a eu 343 projets qui ont été déposés dans le premier volet du défi et il y a eu 3 phases successives sur 4 ans.
C'était gros, oui. Et alors, quelles innovations étonnantes sont proposées dans ce genre de concours?
Et c'est quoi le processus? Comment on fait pour choisir les gagnants?
C'est pour répondre à ces questions qu'on reçoit M. Levallée aujourd'hui.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons nos 2 grands gagnants aujourd'hui et vous comprendrez pourquoi ils ont été choisis.
Les projets sont à la fois pertinents, opportuns et passionnants. Ils représentent l'avenir de notre secteur. Ces 2 gagnants vont vous surprendre et surprendre le monde. C'est le genre d'histoire qu'on aime vous présenter. Alors, bienvenue à la série de balado Les premiers 16%. Je suis l'un de vos animateurs, Kirk Finken.
Et je suis sa collègue, Marie-France Gagnon.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous donner un bref aperçu de ce qui était le défi de réduction du gaspillage alimentaire.
C'est une initiative d'Agriculture et Agroalimentaire Canada en partenariat avec l'organisme Impact Canada.
Et il faut dire, Impact Canada est une organisation spéciale au sein du gouvernement fédéral. Elle gère les concours comme celui-ci, et il y en a quelques-uns. Ces défis sont d'excellents mécanismes pour lancer ou accélérer l'adoption de nouvelles solutions ou technologies. Ce sont des modèles de financement efficaces dans les domaines entrepreneurial, scientifique ou social.
Et pour commencer, il faut savoir que ce défi, il comportait 2 volets. L'un des volets concernait les solutions d'affaires, c'est-à-dire les participants qui avaient un modèle d'affaires permettant de prévenir le gaspillage ou de valoriser les déchets alimentaires. Et il y a un deuxième volet qui concernait les technologies novatrices.
Oui, c'est ça. Puis dans cet épisode, on va se concentrer seulement sur le premier volet, les modèles d'affaires. Notre prochain épisode portera sur les technologies novatrices.
Et dans ce premier modèle d'affaires, les candidatures étaient pas mal diversifiées. Il y avait beaucoup de jeunes entreprises, des entreprises en démarrage. Il y avait d'autres entreprises qui étaient bien établies aussi. Et c'était vraiment très intéressant de voir que les solutions se trouvaient tout au long de la chaîne de valeur aussi, de la ferme à la table, comme on dit.
Oui. Les 24 demi-finalistes ont bénéficié d'une formation et d'un accompagnement, notamment en ce qui concerne les techniques pour bien vendre un projet, par exemple. On a ensuite retenu 12 finalistes.
Et il y a 10 d'entre eux qui ont compétitionné pour le Grand Prix. Il y a 2 participants qui ont choisi de se retirer du défi en cours de route car ils étaient déjà sur la voie du succès.
Pendant 10 mois, de juillet 2022 à avril 2023, les finalistes ont été mis au défi de démontrer la quantité d'aliments dont ils pouvaient éviter le gaspillage. On leur a fourni des outils de mesure pour déterminer le volume de déchets alimentaires qu'ils ont réussi à éviter, ainsi que des mécanismes pour mesurer leur réduction de gaz à effet de serre et de consommation d'eau. Ils ont été soumis à des vérifications réalisées par une tierce partie aussi.
Et après toutes ces étapes, c'est parmi ces 10 finalistes que 2 grands gagnants ont été choisis.
Et bon, je pense que c'est ici qu'il faut demander un roulement de tambour.
Bien, on ne sent qu'un roulement de tambour. Je pensais que les gagnants avaient été annoncés le 20 mars dernier.
Oui, mais bon, ces personnes méritent toutes les fanfares et les roulements de tambour. Elles luttent contre le gaspillage alimentaire, réduisent les émissions de gaz à effet de serre, économisent l'eau, optimisent le système alimentaire et plus encore. Alors, roulement de tambour, s'il vous plaît. Notre premier grand gagnant du défi de réduction de gaspillage alimentaire est...
l'entreprise Loop Mission. Représentée par sa cofondatrice et PDG, Julie Poitras-Saunier.
Julie, bienvenue dans notre émission et félicitations. On aimerait vraiment savoir où cette mission de réduction de gaspillage alimentaire a commencé pour vous.
Avant de fonder Loop Mission, j'étais spécialiste en développement durable dans l'industrie alimentaire et je vivais quand même beaucoup de frustration parce que j'avais beaucoup de difficultés à convaincre tous les grands dirigeants d'entreprise de la valeur ajoutée du développement durable. Et au même moment, on a reçu un appel du plus grand distributeur de fruits et légumes au Canada qui nous a dit qu'il jetait à chaque jour 20 tonnes de fruits et légumes. Donc, on est allé visiter, on a vu l'entrepôt, on a vu les fruits et légumes qui étaient rejetés et on a eu des frissons. Et c'est là que j'ai pris la décision de quitter mon emploi, vendre ma maison pour me lancer à fond dans ce projet-là puis trouver une façon de redonner une deuxième vie à ces aliments-là.
Vous avez démissionné?
Et ouf, vous avez vendu votre maison.
Oh, mais vous avez fondé Loop.
Oui.
Expliquez-nous c'est quoi au juste Loop Mission?
Loop Mission, c'est une entreprise d'économie circulaire qui vise à réduire le gaspillage alimentaire en revalorisant des produits qui sont mis de côté par l'industrie alimentaire. Donc, on a différents types de produits premium avec une liste d'ingrédients épurés qui sont toutes faites à partir de fruits et légumes qui ont été rejetés, par exemple, des jus pressés à froid, des smoothies, des sodas probiotiques, des thés glacés. Donc, on donne vraiment une deuxième vie à tous ces aliments-là qui sont mis de côté pour des mauvaises raisons dans l'industrie.
C'est vraiment super, ça. Et si je suis correcte, Loop a été créé avant le défi, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, dans le cadre du défi, vous avez ouvert une nouvelle division, Loop Synergie, pour produire des ingrédients qui sont destinés à d'autres entreprises de transformation alimentaire. C'est bien ça?
Oui, l'idée avec Loop Synergie était vraiment, quand ils ont lancé le défi de réduction de gaspillage alimentaire, tout le monde a commencé à me contacter. Que ce soit toutes les parties prenantes impliquées dans Loop, mais même les consommateurs de Loop, les gens de l'industrie, tout le monde a dit « ce concours-là est pour vous ». Et au même moment, moi, j'étais déjà dans une grande réflexion parce qu'on voyait qu'on ne pouvait pas à nous seuls complètement éliminer le gaspillage alimentaire parce qu'il y en a tellement. On recevait des appels à toutes les semaines de différents, des fermiers, des producteurs, des distributeurs, des détaillants qui nous appelaient pour dire « nous aussi, on jette tellement d'aliments ». Mais on s'est dit, d'autres entreprises doivent commencer à faire la même chose que nous, mais c'est extrêmement difficile d'un point de vue opérationnel et logistique parce qu'on travaille avec des courtes durées de vie, on a beaucoup de variabilité d'un produit à l'autre, on a peu de constance. Donc, je voulais aider les grands manufacturiers alimentaires à pouvoir facilement intégrer dans leurs produits des aliments revalorisés en développant justement une branche d'ingrédients. Donc, il y a notre branche d'ingrédients qui s'appelle Loop Synergie qu'on a développée grâce au défi de réduction du gaspillage alimentaire. Et c'était pour nous une façon de se dire, OK, on a l'opportunité avec ce concours-là de développer cette branche-là, ingrédients, pour faciliter l'intégration de ces aliments-là, vraiment de prendre les fruits et légumes et de les transformer en ingrédients stables, facilement utilisables par n'importe quel transformateur alimentaire.
Donc, dans le fond, vous permettez à d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement d'innover et de changer leurs pratiques eux aussi.
Oui.
C'est cool. Il y a comme un effet de rayonnement. Julie, on a également entendu parler d'autres avantages découlant du défi lui-même.
Par la nature même du fait que c'était un concours, c'est sûr que ça nous pousse à être toujours meilleurs parce qu'évidemment, on veut gagner le concours. Donc, à chaque étape, on se re-questionnait toujours, est-ce que le projet est vraiment à son optimal? Est-ce qu'il y a des moyens de l'améliorer? Est-ce qu'on réduit le plus possible le nombre d'aliments qu'on envoie au site d'enfouissement? On a eu de l'accompagnement, on devait développer toute une méthodologie de calcul de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, le processus complet qui a pris 3 ans en tout, parce que c'est un concours qui s'échelonnait sur 3 ans, ça a permis à chaque étape de l'amener à un autre niveau et de l'amener différemment. T'sais, on est parti avec une idée au départ, puis finalement, ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est complètement différent, mais c'est vraiment, ça permet d'avoir un impact beaucoup plus grand que l'idée de départ.
Vous avez parlé d'outils de mesure. Pouvons-nous en parler un peu plus de ça?
Au début, je me disais, c'est assez simple. T'sais, je regarde la quantité de fruits et légumes que j'achète et voilà, c'est la quantité de fruits et légumes que j'ai sauvés. Puis rapidement, j'ai réalisé à quel point ça allait plus loin que ça. Et on était suivis. À chaque mois, on avait vraiment un consultant externe, indépendant, qui venait s'assurer d'approuver notre méthodologie, mais de l'amener à un autre niveau, nous questionnait. À chaque mois, on devait faire une rencontre où il regardait vraiment le processus complet puis s'assurait que les données étaient véridiques, étaient bien calculées.
Ah, c'est bien ça. Alors, cela vous a donc poussé à approfondir vos processus et vos façons de mesurer. Et si je comprends bien, vous avez obtenu des données solides et vérifiables, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Ce que ça nous a apporté beaucoup, nous, c'est la crédibilité auprès des consommateurs, parce que ça reste quelque chose d'assez nouveau, tout ce qui est la revalorisation des aliments. Fait que les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui est réel, c'est quoi vraiment la quantité d'aliments dans un produit qui est revalorisé, comment c'est mesuré. T'sais, on leur dit, nous, on vous vend un ingrédient que vous allez pouvoir dire ensuite, vous, à vos consommateurs, que cet ingrédient-là que vous avez mis dans votre produit était revalorisé, bien, ça nous permet justement d'avoir la crédibilité de dire que ce l'est vraiment puis de l'avoir, d'avoir une, presque une certification là-dessus.
Quels sont les avantages que votre modèle d'affaires innovant apporte aujourd'hui à l'industrie?
L'industrie alimentaire est vraiment faite d'une façon qu'on doit travailler avec des ingrédients stable et constant tout le temps. Donc, le consommateur s'attend à avoir un produit qui goûte toujours exactement la même chose. Les transformateurs alimentaires veulent toujours que leur produit soit identique d'une production à l'autre. Donc, nous, on devait vraiment s'assurer que si on veut que les grands transformateurs alimentaires de ce monde embarquent dans le mouvement, bien, qu'ils puissent avoir accès facilement à des ingrédients sans compromis. Donc, le but, c'est de créer ce mouvement-là où tout le monde peut le joindre facilement en enlevant tous les obstacles et les barrières qu'il pourrait y avoir.
OK, donc maintenant, vous en êtes au stade de croissance rapide, eh bien, de mouvement. Et il est différent des autres mouvements qu'on a vus dans le monde des affaires. Il y a la concurrence, oui, mais il y a un aspect amical et collaboratif dans votre mouvement. Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet?
Oui, nous, c'est fou parce que dans notre modèle d'affaires, à chaque fois qu'on voit une entreprise qui développe un modèle similaire, on le voit pas comme de la compétition, on le voit comme justement d'autres gens qui rejoignent le mouvement puis qui collaborent. Donc, on est toujours enclin à faire des projets aussi avec eux. Donc, c'est le fun de voir à quel point, finalement, tout le monde du milieu de l'économie circulaire, là, c'est comme une belle grosse famille qui travaille ensemble à atteindre une mission commune.
Wow! Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle image. Mais si je reviens directement au défi, au cours de ces 3 années, est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont vraiment surprise?
Mais ce qui nous a quand même surpris, c'est qu'on a, on a fait une vidéo sur les réseaux sociaux juste pour commencer à parler du projet Loop Synergie, de dire qu'on allait commencer à avoir des ingrédients revalorisés et disponibles pour les transformateurs alimentaires. C'est devenu complètement fou. Tout le monde a commencé à nous appeler pour dire « Hey, on en veut, on en veut ». On était intéressés. Les gens nous demandaient des échantillons, même des grandes, grandes entreprises. Et là, on s'est dit, OK, wow, premièrement, on n'est pas prêt. On va devoir se préparer pour ce qui nous attend, mais aussi, peut-être qu'on n'a pas besoin de se lancer dans autant de types de produits différents. T'sais. Juste, j'ai réalisé avec notre directeur technique, il m'a dit, en fait, la machine que tu penses, et en faisant les recherches, c'est cette machine-là qu'on aurait besoin pour faire de la bonne poudre de fruits et légumes déshydratés de la qualité qu'on veut, mais elle ne rentre même pas dans notre usine, la machine. Fait que rapidement, on a vu que l'intérêt était tellement grand qu'on n'avait pas besoin de se diversifier dans autant de produits. On pouvait juste se concentrer sur ce qu'on était déjà capable de faire avec nos équipements actuels. Puis pas besoin non plus, tu sais, justement, d'acheter encore plus d'équipements, de consommer encore plus de choses. Donc, le faire avec les moyens qu'on a déjà. Donc, ça a été surprenant, la réponse du marché. C'est vraiment ça qui nous a surpris le plus. À quel point le marché était intéressé et prêt pour ça.
Donc, avec cette réaction, ça vous indique qu'il y a un marché, oui?
Oui, vraiment, il y a un marché. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'on on a réalisé avec ce projet-là que l'industrie veut embarquer, mais justement, elle ne le fait pas en raison de toutes ces contraintes-là. Donc, on a réalisé qu'on était vraiment sur quelque chose, puis que si l'industrie se faisait proposer une solution qui était simple, bien, il allait embarquer.
Lorsque j'ai regardé les images que Julie nous a envoyées de l'entrepôt avec ses tonnes de fruits et légumes détournés, des ordures, j'y voyais un désastre. Des aliments sains et des aliments pourris, un peu mélangés. Mais elle et son équipe, ils ont vu de l'or. Ils ont mis en place des processus reproductibles pour valoriser ces déchets. Ils offrent une excellente gamme de produits aux consommateurs et une excellente gamme d'ingrédients aux autres transformateurs alimentaires.
Tout à fait. Et Kirk, avant de présenter l'autre grand gagnant, je voudrais noter que le défi de réduction du gaspillage alimentaire a eu beaucoup d'autres types de retombées positives.
Mm-hmm, effectivement. Donc, nous avons entendu dire que, dans l'ensemble, les 10 finalistes, ils ont révalorisé 5,2 millions de kilogrammes de déchets alimentaires, dont 66 % ont été récupérés grâce seulement à Loop Mission.
Oui, et il y a encore plus que ça. Dans les calculs totaux des 10 finalistes, en 10 mois, c'est près de 12 000 tonnes métriques d'émissions de CO2 qui ont été évitées.
Wow! C'est énorme!
Pour faire une image, ça équivaut à 2657 automobiles à essence qui rouleraient pendant un an.
Wow! Ça, rien pour que les 10 finalistes durant 10 mois?
Ouais, c'est quand même assez incroyable, hein? Mais c'est pas tout encore. Il y a 545 millions de gallons d'eau qui ont été économisés. Puis, encore plus, si on calcule en termes d'éléments nutritifs, on a récupéré l'équivalent de 3,3 millions de repas. C'est quelque chose.
Fantastique. Et notre prochaine invitée a contribué à tout ça aussi. Est-ce que je peux demander un roulement de tambour pour la présentation de l'autre grand gagnant?
Oui, je te l'accorde, tu peux.
Merci. Alors, l'autre grand gagnant du défi de réduction du gaspillage alimentaire est...
l'entreprise Stillgood, qui est représentée par son cofondateur et PDG, Jonathan Rodrigues. Félicitations, Jonathan, et bienvenue au premier 16 %.
Bonjour, Jonathan. Entrons dans le vif du sujet, là. Parlez-nous de votre entreprise d'abord.
Stillgood est une entreprise qui est en économie circulaire ou, comme nous, on aime appeler, on est en éco-valorisation. On travaille avec les entreprises de l'agroalimentaire avec leurs sous-produits alimentaires générés pendant les productions. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a développé des technologies et des procédés qui nous permettent de travailler avec différents types de matières et de les transformer en nouveaux ingrédients pour les réintroduire au niveau de l'alimentation humaine.
J'aime toujours les histoires qui parlent des origines. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise?
Bien, l'histoire de Stillgood, en fait, commence il y a environ 20 ans de ça où je faisais du bénévolat dans des organismes non lucratifs. Et une des choses qu'on faisait, c'était de redonner des paniers de nourriture aux familles, aux enfants dans le besoin. Puis j'ai commencé à me questionner sur d'où provenaient ces aliments-là. Pour me rendre compte que c'était des surplus ou c'était des aliments qui étaient mis de côté par des entreprises pour toutes sortes de raisons. J'avais de la difficulté à réconcilier un peu le fait qu'il y avait des milliers de tonnes de gaspillage alimentaire qui étaient générées. Et là, j'étais en train de faire du bénévolat présentement avec des enfants, des familles qui avaient de la difficulté à se nourrir, puis pour qui on devait donner des paniers de nourriture. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ça m'a amené en 2016-2017 environ à réfléchir à un modèle qui est aujourd'hui le modèle de Stillgood. Donc, on a fait du R&D là, pendant quelques temps pour officiellement lancer l'entreprise en 2018.
Je trouve ça génial. Parlez-nous du processus du défi, de ce qui a été votre expérience.
Le côté financier est important, mais on a tellement eu plus que ça au niveau du défi, de réduction du gaspillage alimentaire. On a été accompagnés par des équipes qui nous ont aidés à structurer notre approche, qui nous ont aidés à trouver une manière de mieux représenter au niveau du data, donc tout ce qu'on générait comme information, d'être capable de mieux communiquer, trouver une manière de bien se représenter, de bien parler de ce qu'on fait, d'être capable de mieux vulgariser ce qu'on est en train de travailler.
Et je sais que déjà que dans le cadre du défi, on vous a demandé de mesurer votre réduction de gaspillage alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce processus-là?
Oui, on est parti du fait qu'on réduit le gaspillage alimentaire. Donc, pour nous, on est capable de mesurer les volumes. Ce qui était un peu moins simple, c'est de dire, mais l'impact réel au niveau de l'empreinte carbone, elle est quoi? Alors, est-ce que finalement, mon modèle est intéressant au niveau du gaspillage alimentaire, mais contre-productif en termes de réduction de gaz à effet de serre? Donc, pour nous, ça a été de s'allier avec le Ivy School of Business, entre autres, et de travailler avec différentes universités ou des chercheurs qui nous ont permis d'être capables de développer un modèle, développer une manière de récolter nos informations et d'être capable d'arriver à une conclusion, de dire où sommes-nous au niveau des gaz à effet de serre? Est-ce qu'on en produit? Est-ce qu'on est neutre? Mais nous, ce qui est intéressant par rapport au modèle, c'est que toutes ces études-là ont fini par démontrer qu'en fait, notre modèle, il est négatif. Donc, on en génère moins qu'on en émet. Ce qui est très intéressant pour nos clients également, parce que toutes les entreprises qui travaillent avec nous, sans même rien faire, automatiquement réduisent leur propre empreinte carbone, du fait que nous, on est dans le négatif.
Ah, incroyable! Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi vos innovations sont utiles aux autres transformateurs alimentaires canadiens?
Bien, le modèle de Stillgood, en fait, est un modèle de partenariat avec l'industrie. Notre modèle, on l'a appelé, dans le fond, un modèle d'éco-valorisation. Pourquoi? Bien oui, écologique pour la valorisation, mais aussi économique pour la valorisation. Donc, il y a de là l'idée que l'économie circulaire, par exemple, n'est pas seulement au niveau de l'écologie. Derrière notre modèle, la possibilité d'un modèle qui génère aussi des bénéfices économiques pour l'industrie alimentaire. On a une équipe qui évalue tout ça, une équipe R&D ensuite qui fait le travail de déterminer qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveaux ingrédients avec ça. L'objectif étant de le retourner à l'entreprise. On transforme vos pertes en revenus. Pourquoi? Parce qu'on va prendre 100% de ça et on va travailler avec vous, on va développer de nouveaux ingrédients qu'on va faire pour vous, que vous allez ensuite pouvoir retourner dans votre production ou sous une nouvelle marque ou sous votre marque avec une nouvelle gamme de produits.
C'est vraiment très intéressant ça. Donc, votre entreprise joue le rôle de facilitateur et de hub dans le domaine. Et on croit savoir que vous avez collaboré avec certains des autres concurrents du défi.
Ben oui, c'est ça. Pour moi, le modèle qu'on appelle, comme nous on l'appelle, d'éco-valorisation, d'économie circulaire, il y a dans ce principe-là de circularité l'idée de collaboration. Il arrive que moi aussi, j'ai des matières que je récupère, qui ne passe pas mon contrôle de qualité parce que ça ne sera pas adéquat pour l'alimentation humaine pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on est dans un modèle où on se dit qu'on est en zéro déchet ou ce qu'on veut, on réduit notre empreinte carbone, on fait quoi avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, OK, comment est-ce qu'on est capable de bâtir des partenariats avec d'autres entreprises qui s'adonnaient aussi à être participants dans le défi? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a bâti des relations avec des entreprises qui utilisent des matières organiques pour nourrir des insectes, par exemple. Donc, notre volume qu'on ne peut pas utiliser pour l'alimentation humaine, on l'achemine vers une entreprise qui va l'utiliser pour nourrir des insectes. Mais ces matières-là peuvent aussi être utilisées pour, par exemple, la pousse de champignons. Donc, on a travaillé avec une autre entreprise qui était dans le défi, qu'eux, on achemine aussi ces matières-là. Eux vont l'utiliser pour nourrir des champignons, par exemple. C'est de créer un écosystème où on est conscient qu'on n'est pas la seule solution. On est une partie de la solution, on est un maillon.
Écosystème, ouais, c'est bien dit. Bon, parlez-nous donc de ce modèle de plaque tournante ou hub, comme on dit en anglais, et de la façon dont d'autres entreprises collaborent avec vous et se développe avec vous. Je parle ici des producteurs alimentaires et des entreprises de réduction du gaspillage.
Initialement, on voulait travailler avec les jeunes, mais finalement, il y a comme eu un rôle rassembleur qui s'est créé autour de du modèle qu'on a créé. Et pour nous, ça devient très intéressant parce qu'on s'inspire de ça pour être capable de développer notre modèle puis dire, quand on va répliquer ce modèle-là à échelle nationale ou ailleurs dans le monde éventuellement, bien, on va aussi intégrer cet aspect-là où on va vouloir travailler avec d'autres partenaires qui ont besoin de ces matières-là aussi, puis trouver une manière de créer un peu un hub alimentaire qui est au niveau de l'économie circulaire.
Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Quels sont vos plans concernant la croissance de votre entreprise?
Moi, on est en train de terminer notre usine, l'expansion de l'usine. Je suis déjà en train de penser, je m'en vais où dans deux ans et demi? Je sais que je serai plus capable d'être là parce que je vais avoir atteint la capacité maximale de mon endroit. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires dans les millions, plusieurs millions. On a une équipe d'aussi 25 employés. On a une usine avec des équipements. On est en expansion au niveau de l'usine. On est en train de doubler notre capacité. Puis ça, pour nous, c'est que le début. On voit avec tous les partenariats puis ce qu'on développe à l'heure actuelle, on est en train de regarder à notre prochaine usine de la région de Montréal. Va être une usine qui va devoir être capable d'accueillir et de traiter entre 100 et 150 000 tonnes par année de matière. Donc, on est en train de parler d'une grosse usine, on parle d'équipement, on parle d'un projet qui est très important et qui devient porteur pour une communauté. Mais en même temps, on se dit, bien, on regarde puis on voit qu'il y a de la demande pour ça ailleurs. Donc, ce qu'on est en train de faire, oui, on fait ça, mais en parallèle, on est déjà en train de développer avec des villes comme Vancouver, avec des endroits où qui ont manifesté de l'intérêt et qui se disent, hey, nous aussi, on veut développer ça.
Oh, bien, j'imagine que vous recevez des appels en provenance d'autres pays, non?
On a de l'intérêt qui provient d'international. Beaucoup des États-Unis ont fait des exports aux États-Unis maintenant. L'objectif de ça, c'est d'être capable de découvrir où les prochains endroits où on va pouvoir développer une usine aux États-Unis également. On travaille avec des entreprises multinationales à l'heure actuelle en recherche et développement, de multiples entreprises, pas juste une, là, plusieurs, qui ont de multiples usines à travers le monde. Et ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est que les travaux qu'on fait dans la recherche et le développement se voient comme des projets pilotes qui ensuite, pour lesquels on va s'inspirer d'eux. Et ça, c'est eux qui nous le disent. C'est pas nous qui leur imposent ça, là, qui nous disent « on va s'inspirer de ce que vous faites avec nous ici pour ensuite répliquer ça à travers nos usines, à travers le monde. »
Honnêtement, je trouve ça fascinant et je serais curieuse de savoir, avez-vous eu des surprises au cours du défi?
T'sais, on a commencé ce défi-là au départ. On était à l'époque là, en conversation avec la Ville de Montréal. On avait lancé l'entreprise. Puis bon, la Ville nous approchait en disant « Tu travailles avec les Dresch, Spent Grain, les études suite à la production de la bière. » On a plein de microbrasseries dans la ville qui grandissent. On a une problématique au niveau de la gestion des matières résiduelles, de tout ça. Là. Est-ce qu'il y a moyen pour vous d'être capable d'accélérer un peu le modèle pour être capable de prendre un plus grand volume? C'est particulier parce qu'à ce moment-là, le challenge ou le défi de réduction de gaspillage alimentaire est arrivé. Donc, pour nous, ça a été un peu l'angle de dire, bien, écoute, on est rendu à cette étape-là dans l'entreprise, on veut aller vers là de toute manière, mais présentons ça de cette manière-là, on va travailler avec les Dresch parce que c'est une problématique qu'on a ici à Montréal. Puis, on a présenté le projet en fonction de ça, où là, on a développé de la technologie, des procédés, on a tout mis en place pour être capable de transformer cette matière-là dans de nouveaux ingrédients. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ultimement, on a grandi de ça parce que nous, on a réussi ensuite de travailler avec notre technologie, de redévelopper la technologie, de l'adapter pour être capable de travailler avec plein d'autres intrants.
Là, ce que je vois comme portrait, comme début de votre entreprise, bien, vous avez dû comme passer vraiment des défis, nombreux défis, pendant plusieurs années, là.
OK, c'est toujours difficile de partir en entreprise. Partir en entreprise pour ensuite, un an après que tu l'es parti, que tu es en plein envol, tu t'es frappé par une pandémie qui bloque tout puis qui arrête tout. Ça fait mal, c'est difficile. Là, en plus, on est en alimentaire, on est en innovation, on développe de nouveaux ingrédients qui n'existent pas. Et alors, pourquoi on n'est pas découragé? Bien, parce qu'on a les yeux sur notre vision future puis la vision de où on s'en va avec ça. Si on regarde ce qu'on a fait dans les derniers 5 ans, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans les 5, 10, 15 prochaines années. On est rendu à l'étape où là, le développement va devenir exponentiel. Donc, c'est un modèle réplicable, donc scalable, un modèle qui est capable de prendre de l'ampleur et faire de grands volumes. et qui peut être aussi reproduit un peu partout au Canada ou à travers le monde. Il y en a qui vont dire qu'on rêve. Moi, je vais dire que c'est de la vision. Mais ce que le défi ou le challenge a réussi à faire aussi, c'est qu'il nous a toujours poussé dans le dos un petit peu parce qu'année sur année, il fallait qu'on avance dans notre modèle. Puis, tu sais, à l'étape où on est dans notre développement, on s'est éventuellement rendu là. Mais je pense que le challenge, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a propulsé plus rapidement, ce qui nous permet d'être où on est aujourd'hui. C'est Still Good, on est en mission. Là. C'est plus qu'une entreprise. On est vraiment en train d'essayer de changer les choses.
Cela a été très inspirant de parler avec Jonathan et Julie, deux entrepreneurs formidables et dynamiques, deux excellents modèles d'affaires, prêts à prendre une place sur la scène nationale et internationale.
C'était vraiment très motivant d'entendre ça. Et leurs histoires nous ont donné un aperçu de ce nouveau mouvement dans notre secteur. Donc, ils extraient des éléments nutritifs et une valeur ajoutée à partir d'aliments qui sont déjà dans le système. Donc, ils réduisent en plus les émissions de gaz à effet de serre.
Et c'est pourquoi, Marie-France, toi, tu as parlé avec M. Jean-Charles Levallée, l'un des membres du jury du défi.
Oui, Kirk, il est l'un des plus grands experts au Canada et dans le monde en matière d'agriculture et de système alimentaire. Il est aussi le représentant de notre pays et l'ambassadeur pour l'agriculture au sein de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture au Costa Rica. Il travaille dans 34 pays des Amériques et, dans le cadre du défi, il a mis à profit son expérience en matière de gaspillage alimentaire qu'il a cultivé à l'échelle mondiale.
Oui, et puis il s'appuie sur cette approche humanitaire et scientifique qui est essentiel.
Oui, une question que j'étais vraiment curieuse de poser, de savoir ce que ça représente d'être membre d'un jury pour ce genre de défi.
Ben, c'était en fait une très belle expérience, moi, personnellement, être entouré de membres du jury qui venaient de tout le pays avec une grande expertise, beaucoup de sagesse. Et moi-même, j'ai appris beaucoup. Moi, j'apporte plus un côté, une perspective plus internationale des expériences de l'étranger, étant donné que le Canada est parmi un des pays les plus gaspilleurs au monde, comme société, par capita. Il faut s'y attaquer. On n'a pas le choix. Et on parle de pertes alimentaires dans la chaîne alimentaire, de la production avec les fermiers et tout, jusqu'à la consommation. Donc, une fois qu'on a acheté le produit, ça devient du gaspillage. Avant ça, c'est une perte dans le système alimentaire. Et donc, nous, on s'adresse aux deux et on regarde des solutions comme comité, des propositions qui s'adressent, qui s'attaquent à différents éléments de cette chaîne d'approvisionnement. Et puis, on était vraiment heureux de voir la qualité des finalistes. Là, c'était vraiment inspirant. Et puis, on espère que ces projets-là vont pouvoir évoluer davantage au niveau national.
J'aimerais savoir, pouvez-vous nous parler de vos premières impressions après avoir rencontré les participants du défi?
J'étais inspiré par l'étendue de l'intérêt pour le domaine d'un océan à l'autre. Beaucoup de projets, c'est des concepts de départ, ce sont uniquement des idées qui méritent un peu d'attention, mais ils ne sont pas prêts. Mais par contre, il y a d'autres projets qui ont énormément bien établi et que ça marche et Il y a un marché et puis ça fonctionne bien. J'étais inspiré par le désir des Canadiens de réduire les pertes et le gaspillage alimentaire.
Et j'assume que le processus et les critères ont également joué un rôle important. Pouvez-vous nous en parler?
C'est les innovateurs. C'est ce qui m'inspire. C'est ce qui m'a donné envie de participer. Et j'ai été encouragé de voir ça. Et puis, il y avait du financement après chacune des étapes aussi. Donc, ils étaient accompagnés avec un financement et des outils et la formation pour pouvoir mesurer l'impact réel de leur projet, de leur idée. Et pour eux, de le voir mettre en œuvre et de mesurer, c'est fascinant. Je pense que le défi démontre bien la valeur de ces solutions pour pouvoir les faire accepter ailleurs au pays. Il y a de l'effort à faire. Donc, il faut qu'on travaille de manière plus étroite ensemble comme pays. Il faudra investir davantage, il faut plus d'infrastructures, il faut de la volonté, un accompagnement C'est faisable, mais c'est un grand pays. C'est un défi géographique qu'on a. Le défi sert à promouvoir des solutions qui peuvent inspirer ce changement.
Je ne sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs. Moi, je suis vraiment, mais vraiment optimiste.
Je partage tout à fait ce sentiment, Kirk. Et donc, je voudrais dire à nos auditeurs de ne pas manquer notre prochain épisode. Parce qu'en effet, nous allons interviewer les deux entreprises gagnantes du volet des technologies novatrices du TEPFI.
Et vous allez tomber en bas de votre chaise. Ce sont des personnes qui révolutionnent complètement les choses.
Alors, d'ici là, soyons patients et tu sais ce qu'il te reste à faire?
Je vais expérimenter.
Comme peut-être goûter à un nouvel aliment fait d'ingrédients revalorisés?
Ah oui, ça aussi, oui.